Audiolib présente Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Traduit de l'anglais par Gérard de Chergé. Lu par Féodor Atkin. Ils étaient 10 est le nouveau titre du roman 10 petits nègres. La traduction a été révisée en suivant les dernières mises à jour de la version originale, bien que l'histoire en elle-même ne change pas. Aux États-Unis, le roman est connu sous le nom de And Then There Were None, depuis sa première parution. Au Royaume-Uni, ce titre est utilisé depuis 1985. Le masque a opéré ses changements éditoriaux à la demande d'Agatha Christie Limited de manière à s'aligner sur les éditions anglaises, américaines et sur les autres traductions internationales. À Carlo et Marie, ce livre est le leur. Je le leur dédie avec toute mon affection. Note de l'auteur. J'avais écrit ce livre comme une gageure, et ce pour l'excellente raison que l'effarante difficulté de sa conception me fascinait. 10 personnages devaient mourir sans que cela devienne ridicule ni que l'identité du meurtrier soit trop évidente. Je passais à la rédaction après un énorme travail de préparation et je fus satisfaite du résultat. C'était clair, honnête, déroutant. Et pourtant, il y avait une explication parfaitement raisonnable. Cependant, il y fallait l'adjonction d'un épilogue afin d'expliquer ce qui s'était passé. Le roman connut la faveur du public, mais la personne la plus heureuse fut moi-même, car je savais mieux que n'importe quel critique toutes les difficultés que j'avais surmontées. Agatha Christie. Chapitre 1. 1. Dans le coin fenêtre d'un compartiment fumeur de première classe, le juge Wargrave, retraité depuis peu, tirait sur son cigare en parcourant avec intérêt les pages politiques du Times. Posant son journal, il regarda par la vitre. Il traversait maintenant le Somerset. Il jeta un coup d'œil sur sa montre. Encore 2 heures de voyage. Il passa mentalement en revue tout ce qui avait paru dans la presse au sujet de l'île du soldat. Il y avait d'abord eu la nouvelle de son achat par un milliardaire américain fanatique de yachting, assorti d'une description de la luxueuse demeure moderne qu'il faisait construire sur cet îlot au large du Devon. Le fait malencontreux que la toute récente troisième épouse du dit milliardaire n'eût pas le pied marin avait entraîné la mise en vente de l'île et de la maison. Des petites annonces dithyrambiques avaient alors été insérées dans les journaux. Jusqu'à la publication d'un sobre communiqué révélant qu'elle avait été rachetée par un certain monsieur O'Neill. À partir de là, les rumeurs des écotiers s'étaient donné libre cours. L'île du soldat avait été acquise en réalité par Mademoiselle Gabrielle Thurle, la star hollywoodienne. L'actrice rêvait d'y passer quelques mois à l'abri de toute publicité. La commère laissait entendre avec tact que la famille royale comptait y établir sa résidence d'été. Monsieur Merryweather s'était laissé dire en confidence que l'île avait été achetée pour une lune de miel. Le jeune Lord L. avait enfin succombé aux flèches de Cupidon. Jonas savait de source sûre que l'amirauté l'avait acquise en vue d'y procéder à des expériences ultra-secrètes. Assurément, l'île du soldat faisait couler de l'encre. Le juge Wargrave sortit une lettre de sa poche. L'écriture en était indéchiffrable, mais quelques mots ressortaient ça et là avec une clarté inattendue.